pour en savoir plus, visitez le site ien.dijon-sud.fr, rubrique podcast. Vous écoutez les Instants P, les podcasts des pratiques pédagogiques à partager. Bonjour, je suis Véronique, enseignante référente aux usages du numérique.
Et je suis Alexia, conseillère pédagogique.
De quoi allons-nous parler aujourd'hui, Alexia ?
Aujourd'hui, nous allons apprendre comment l'utilisation d'un blog à l'école maternelle peut favoriser la communication avec les familles et contribuer au renforcement des compétences langagières des élèves. Véronique, que signifie ce terme blog ?
Le terme blog est l'abréviation de weblog qui peut se traduire par journal sur Internet, dans lequel un internaute tient une chronique personnelle ou consacrée à un sujet particulier. Avant d'aller plus loin, j'ai une petite question pour toi, Alexia. Il y a 285 écoles maternelles publiques en Côte d'Or. Certaines d'entre elles possèdent un blog académique. Saurais-tu me dire combien ? Réponse A, 64. Réponse B, 93. Réponse C, 115.
Je ne suis vraiment pas certaine de ma réponse, Véronique, mais je dirais réponse A, 64 écoles maternelles publiques possèdent un blog académique.
D'accord, c'est noté. Nous découvrirons la réponse à la fin de cette émission. Par quoi allons-nous commencer, Alexia ?
Tout d'abord, nous allons écouter Stéphanie Gontier, professeure des écoles dans la circonscription de Dijon Sud. Elle s'est approprié le blog académique et s'en sert régulièrement. Elle va nous expliquer quels avantages elle a trouvés à cet outil, en premier lieu pour la communication avec les familles.
Un des premiers intérêts du blog, c'est la facilité de communication avec les familles. Le blog est avant tout un cahier de vie virtuel dans lequel je publie régulièrement des articles où les parents retrouvent les activités menées en classe et illustrées par des textes produits par les enfants, par des photos, des vidéos, des liens ou bien des jeux interactifs adaptés. La place de l'oral est mise en avant et c'est l'occasion pour moi d'expliciter tout le travail invisible fait en classe, les différents domaines étudiés ainsi que les compétences travaillées à la maternelle. Le contenu est bien plus fourni que dans un cahier de vie papier et la démarche est aussi plus écologique. J'utilise aussi ce support pour diffuser les informations administratives sur la vie de l'école comme les visites médicales, les sorties. Et grâce à la lettre d'actualité, l'information aux familles est quasi immédiate. Par ailleurs, les parents ont la possibilité de partager des activités faites à la maison en les déposant à partir d'un lien dans un espace sécurisé. La communication se fait donc dans les deux sens. Je constate chaque année une forte adhésion des familles grâce aux statistiques de visite et par les nombreux retours que me font les enfants.
Comme Stéphanie l'a très justement expliqué, le blog est un moyen, un outil pour mettre en œuvre les premières recommandations du programme de l'école maternelle, construire une école qui accueille les enfants et leurs parents. Ainsi, chaque équipe pédagogique réfléchit à la manière d'établir un dialogue régulier et constructif entre enseignants et parents et à la manière d'instaurer confiance et information réciproque.
Mais dans quel but ?
Eh bien, tout l'enjeu, c'est de permettre aux parents de comprendre le fonctionnement et les spécificités de l'école maternelle, à savoir la place primordiale du langage, le rôle du jeu, les modalités spécifiques d'apprentissage, l'importance des activités physiques et artistiques.
Stéphanie parle de cahier de vie virtuel, on pourrait dire cahier de vie augmenté ou enrichi. En effet, non seulement ce cahier comporte du texte et des illustrations, mais il sera possible d'y ajouter des vidéos ou des enregistrements audio.
À l'image du cahier de vie traditionnel, le blog permet de donner à voir ce qui se passe dans la classe, dans l'école. Dans son témoignage, Stéphanie dit que le blog lui permet d'expliciter tout le travail invisible fait en classe. En effet, à l'école maternelle, les traces papier sont peu nombreuses, surtout dans les plus petites classes. Pour autant, les élèves apprennent. Ils apprennent en jouant, en racontant ou en se racontant des histoires, en expérimentant, en chantant, en exerçant leur motricité. Le blog, en tant que cahier de vie virtuel, permet de rendre compte de tous ces apprentissages.
Si le blog est un outil de communication de l'école vers les familles, il offre également à ces dernières la possibilité de partager le vécu de la maison. À l'aide d'un lien dans un article, les parents peuvent facilement déposer des documents sur un serveur sécurisé, un cloud géré par l'académie. Stéphanie peut alors récupérer sur son ordinateur les documents en provenance des familles, photos, vidéos, textes. Mais le blog a une autre utilité à l'école maternelle. Il peut s'avérer être un vecteur de langage, N'est-ce pas, Alexia?
Effectivement, comme indiqué dans la note de service de mai 2019, l'école maternelle joue un rôle primordial dans la prévention de l'échec scolaire en faisant de l'enseignement du langage une priorité, et ce, dès le plus jeune âge. Stéphanie explique comment un bloc de classe peut être un outil pour cet enseignement.
L'utilisation du blog est une formidable occasion de développer les compétences langagières des élèves. Les situations de communication sont authentiques à l'école comme à la maison. Nous créons les articles en classe en utilisant la dictée à l'adulte, ce qui demande un effort supplémentaire pour la diffusion. Les élèves racontent ce qu'ils font en classe en réutilisant le lexique acquis et comprennent la nécessaire transcription de leurs messages. Dans les grandes classes, les élèves peuvent saisir eux-mêmes les articles en suivant un modèle. Dans d'autres cas, les moments de langage sont enregistrés pour présenter une comptine ou une chanson. Tout ceci constitue un support qui sera le point de départ d'échange entre enfants et parents à la maison.
Offrir aux élèves la possibilité de communiquer, et ce dans des situations authentiques, implique un travail tant sur le fond que sur la forme. Les élèves devront se mettre d'accord sur ce qui va être dit. Ils devront également faire en sorte de produire un discours intéressant et compréhensible, à la fois du point de vue du lexique, de la construction syntaxique, mais aussi de l'articulation et du débit si le discours est enregistré. En effet, les élèves devront raconter, expliquer, décrire pour des destinataires que sont les parents, les familles, qui sont absents de la classe. Être capable de mettre en mots ce qu'on a vécu, c'est l'occasion pour les élèves de prendre du recul sur les activités, de revenir sur ce qu'ils ont appris. Pour en venir à des choses beaucoup plus pratiques, Véronique, de quel matériel a-t-on besoin?
Eh bien, en tout premier lieu, il faut avoir à portée de main un téléphone portable ou une tablette. Ce sont des appareils tout en un qui remplacent à la fois l'appareil photo numérique, le caméscope et l'enregistreur audio. Avec une tablette, il sera possible de transférer directement les prises de vue ou les enregistrements dans l'article du blog. L'article sera rédigé grâce à la dictée à l'adulte, avec un petit groupe d'élèves ou individuellement. En l'absence de tablette, les fichiers devront être importés sur un ordinateur afin d'être exploités par les élèves.
Merci pour toutes ces explications. Je crois que tu souhaites aborder un autre point important, le respect des droits de diffusion.
En effet, une autorisation de diffusion de l'image et de la voix des élèves doit être signée par les parents en début d'année. Nous devons néanmoins nous interroger sur ce que nous voulons donner à voir, sur nos intentions pédagogiques lorsqu'on réalise les prises de vue.
Pour poursuivre la réflexion, vous trouverez divers documents sur le site de la circonscription de Dijon Sud. Au fait, Véronique, tu m'avais bien posé une question au début de cette émission.
Effectivement, je t'avais demandé combien d'écoles maternelles de Côte d'Or possédaient un blog académique. Que m'avais-tu répondu ?
Je t'avais répondu, mais sans aucune certitude, 64 écoles maternelles publiques possèdent un blog académique.
Ce qui est la bonne réponse, Alexia. C'est presque un quart d'entre elles. J'espère que ce podcast va inciter de nouvelles écoles à ouvrir un blog.
Contente d'avoir bien répondu, Véronique. Notre émission arrive maintenant à son terme. Comme vous l'avez compris, la mise en place d'un blog de classe est un véritable projet fédérateur qui permet aux élèves de partager un vécu commun, de créer une culture commune. N'oublions pas que l'école maternelle est une école où les enfants vont apprendre ensemble et vivre ensemble. Nous laissons la parole à Stéphanie pour le mot de la fin. À bientôt pour un prochain podcast.
Au revoir.
Je ne peux qu'encourager les enseignants à vivre l'expérience du blog qui est toujours positive. Et dans la situation que nous traversons en ce moment, c'est un avantage de plus. En cas de confinement, les parents connaissent et maîtrisent l'outil. Et la mise en place du suivi pédagogique sera facilitée. Alors, à vos claviers !